si merveilleux pour nous. Tu es si bon pour nous. Au point que nous manquons même des paroles pour te rendre gloire pour tout ce que tu fais. Pour marquer encore une fois notre reconnaissance envers toi, Jésus. Nos paroles ne suffisent pas. Nos mots ne suffisent pas pour te prouver notre reconnaissance, Jésus. Tout ce que nous avons à dire, c'est que tu reçoives toute la gloire. Reçois notre adoration, reçois le peu que nous avons trouvé à t'offrir, Jésus. Parce que nous t'offrons avec tout notre cœur. C'est avec tout notre cœur que nous sommes en train de t'offrir ce sang. C'est avec tout notre cœur que nous sommes en train de t'offrir cette adoration. C'est avec tout notre cœur que nous sommes en train de t'élever. Sois élevé, Jésus. Reçois le peu que nous avons trouvé à te donner, Jésus. Tu es digne. Jésus. Tu en es digne, Jésus.
Bien-aimé, dans cette attitude de prière, tu vas penser à la grandeur de ce Dieu. Il est un Dieu tout-puissant, il est un Dieu que nous ne pouvons pas égaler. Et c'est avec cette assurance que nous pouvons nous approcher de lui. Aujourd'hui, nous sommes en train de prier pour nos familles. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu dans tous les aspects qui concernent nos familles. Cependant, avant de prier pour nos familles, j'aimerais que nous puissions nous souvenir de cette nation. Le bonheur de nos familles dépend de celui de cette nation. C'est pourquoi tu vas penser à tout ce que tu connais sur la RDC. Projette cela en rapport avec la situation de ta famille. Et tu trouveras des mots à dire au Seigneur. Commence à prier pour le pays, la République démocratique du Congo, pour sa stabilité, pour la sécurité dans ce pays. Parce que de cela dépendra la stabilité de nos familles. Voyez-vous combien tout ce qui a un rapport avec l'économie est en train de nous affecter. Un taux qui est très instable nous affecte. Dans tous les aspects de nos vies, nous avons vraiment besoin de prier pour ce pays. Tu vas prier pour les dirigeants, commençant par la présidence, parce que Dieu, il est celui qui est au-dessus de toute autorité. Nous allons prier pour le président de la République. Dieu est celui qui le connaît en fond. Dieu connaît ses faiblesses et Dieu connaît ses points forts. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu de faire que le règne de ses dirigeants ne soit pas pour nous détruire, mais que ce soit un règne qui va nous amener au bonheur. Tu vas prier pour les sénateurs. Tu vas prier pour ceux qui sont au niveau du Parlement. Que Dieu puisse servir de chacun parce qu'il est capable de le faire. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, un moment qu'un roi qui est méchant régnait sur Israël, le peuple en souffrait. Mais lorsque des dirigeants qui craignaient Dieu régnaient sur Israël, le peuple en profitait. C'est pourquoi tu vas prier pour la RDC. Nous allons prier pour l'armée. Bien-aimés, nous avons besoin d'une armée forte. Nous avons besoin d'une armée patriotique. Nous allons prier pour la police. Nous allons prier pour tous ceux-là qui ont une parcelle de pouvoir dans ce pays. Bien-aimés, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Prions pour ce pays, parce que notre bonheur, notre stabilité en dépend. La parole de Dieu dit, puisque tu accueilles les prières, tous les humains viennent à toi. Heureux c'est que tu admets à passer un moment chez toi. Nous aimerions profiter pleinement de ce qu'il y a de meilleur dans ta maison, dans les temples qui t'est consacré. Dieu notre Sauveur, tu es fidèle à toi-même. Tu nous réponds par des actes impressionnants. Toi en qui espère le peuple du bout du monde et des rivages les plus lointains. La Bible nous dit que Dieu nous répond par des actes impressionnants. À ce moment, tu vas continuer à prier, implorer la grâce de Dieu sur ta famille restreinte, ta famille élargie. Tu vas présenter à Dieu tout ce qui pèse sur ton cœur en rapport avec la famille. Tu vas prier pour toutes les autres familles de cette paroisse. que Dieu puisse les visiter. Peut-être que tu connais une famille qui est en train de connaître une difficulté particulière. Tu vas la présenter devant Dieu, parce que la Bible dit que le Dieu qui exauce les prières, toutes les nations, tous les peuples viendront à lui. Et on nous dit que lorsque Dieu nous exauce, il nous exauce par des actes qui nous étonnent. La Bible même dit qu'il est celui qui agit au-delà de ce que nous demandons, au-delà de nos attentements. C'est pourquoi tu vas prier pour ta famille. Ta famille a besoin de la grâce de Dieu. À ce second semestre de l'année 2023, ta famille, ma famille et cette église a besoin de la grâce de Dieu. S'il y a des malades dans ta famille, tu vas les présenter devant Dieu, parce qu'il est Jéhovah Rapha. S'il y a des personnes qui n'ont jamais connu le Seigneur, tu vas les présenter devant Dieu, parce qu'il est celui qui dit que sa volonté est que tous nous puissions parvenir à le connaître. Nous allons prier, mes frères et sœurs, parce qu'aussi le bonheur de nos familles influence notre bien-être. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Bien-aimé, c'est un moment où le Père nous écoute. C'est un moment où le Saint-Esprit va transmettre tout ce que nous pouvons avoir difficile à exprimer par nos propres mots. Prions le Seigneur. parole que je vais écouter tout au long de ces 14 jours de prière puisse constituer une flamme qui va consumer dans ma vie tout ce qui n'est pas à toi. Tu vas dire, Seigneur, je n'aimerais pas passer ces 14 jours en jeûne et prière et demeurer la même personne. Je veux que ce que tu vas faire dans ma vie m'amène dans une nouvelle dimension. Nous sommes en train d'accueillir le serviteur de Dieu, le révérend pasteur Joshua, qui va s'approcher pour prier et afin de nous parler de la part du Seigneur. À cet instant, tu vas demander à Dieu de faire que ces 2 semaines de prière puissent impacter ta vie.
Père Céleste, nous te disons merci parce que c'est toi qui nous as amenés ici. Et ta parole nous rappelle que tu amènes une âme dans un lieu désert afin de pouvoir lui parler. Nous voulons, Seigneur, que tu nous considères dans le désert pour que nous puissions recevoir de toi quelque chose de nouveau que tu veux nous communiquer aujourd'hui. Accepte, Seigneur, que nous ne puissions pas revenir d'ici comme nous sommes venus. Que tu nous bénisses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Nous disons merci à Dieu qui nous amène à notre 2e jour des enseignements. Durant cette période que nous avons commencé et qui va durer 14 jours, où les enseignements sont subdivisés en 2 parties, la première partie que nous avons commencé hier, qui traite des dons spirituels dans l'Église, leurs bienfaits et les défis relatifs à relever. Pour un petit rappel, la fois passée, hier, nous avons essayé de comprendre ce que c'est les dons spirituels au sein de l'Église. Nous avons montré que c'est important parce que Paul dit qu'il faut éviter de rester dans l'ignorance par rapport aux dons spirituels. Rester dans l'ignorance, c'est être exposé à la manipulation du diable et de ses anges. Et cela est dangereux parce que lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons savoir que le diable s'approche aussi de nous et qu'il est capable de nous faire du mal lorsque nous allons être en train de penser que nous sommes en train de faire du bien pour Dieu. Nous avons parlé de la définition des dons spirituels et nous avons compris que les dons spirituels sont une intervention surnaturelle de Dieu dans la vie d'un croyant qui est déjà né de nouveau, pour qu'il puisse faire quelque chose qui rentre dans la volonté de Dieu pour accomplir ses objectifs ici sur la terre, au sein de l'Église. On a parlé de la différence entre dons et talents. On a compris que les talents sont naturels. Ils peuvent être extraordinaires, mais ils restent naturels, alors que les dons spirituels sont surnaturels. On a compris que les dons spirituels ne peuvent pas être détenus par quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, alors que les talents peuvent être détenus à la fois par des personnes non nées de nouveau et des personnes nées de nouveau. Nous avons ensuite parlé de la différence entre les ministères et les dons spirituels. Nous avons compris que les ministères, c'est le service que j'ai choisi de rendre à Dieu au sein de l'Église. La différence, c'est qu'il est possible que dans les ministères, on puisse avoir des personnes non converties, non nées de nouveau. Mais ce qui valorise les ministères, ces services-là, pour qu'ils soient acceptés par Dieu, c'est que quelqu'un qui est né de nouveau, il va rendre les services et de temps à autre, il va constater que les dons sont en train d'intervenir et de se manifester dans son service qu'il rend à Dieu. Nous avons parlé de la classification des dons spirituels. On a parlé des 3 grands groupes de dons spirituels. Les dons spirituels qui sont liés à la révélation. Et là, nous avons parlé de le don de la sagesse, don de la connaissance, don de discernement des esprits. Ensuite, nous avons parlé de la 2e catégorie, 2e groupe, qui est les dons d'inspiration. Là, nous avons parlé de dons de prophétie, parler en langue, interprétation des langues. Enfin, nous avons parlé des dons de puissance, où nous trouvons la foi, les dons d'opérer des miracles et les dons de guérison. On a parlé de l'origine des dons spirituels. On a bien vu que ça vient du Saint-Esprit. Mais il faut faire attention parce que les semblants des dons peuvent exister. Ça ressemble aux dons alors que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ça vient de l'Esprit, mais on ne sait pas de quel esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, donc ça doit être des esprits maléfiques, des esprits mal intentionnés. Ici, nous vous avons rappelé le texte de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23, où des personnes viennent devant Jésus pour dire, « Nous avons fait des miracles à ton nom. Nous avons chassé les démons à ton nom. Nous avons prophétisé à ton nom. » Prophétiser, c'est un don. Guérir, miraculeusement, c'est un don. Les miracles, ce sont un don, parce qu'il y a les dons des miracles, il y a les dons de guérison, il y a les dons de prophétie. Mais ceux-ci auront la réponse de Dieu qui dit, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui avez commis l'iniquité. » Ça veut dire qu'on peut avoir des semblants de dons, mais des dons qui viennent d'un esprit autre que le Saint-Esprit, et ce n'est pas acceptable devant le Seigneur. On a ensuite annoncé qu'aujourd'hui, nous allons commencer à parler en détail de chacun des dons. Et nous devons les analyser, nous devons voir comment on peut les décrire, et cela nous permet de comprendre comment ça fonctionne au sein de l'Église. L'impression que nous avons à l'Église, c'est que, en parlant des dons, comme on n'a pas l'habitude d'en parler, on a peur des dons. De manière à ce que, comme nous avons dit, les talents, on peut les apprendre. On peut les apprendre dans une école, on peut les apprendre par l'exercice, on les développe. Mais les dons spirituels ne s'apprennent pas. On peut apprendre sur les dons spirituels, mais on ne peut pas les apprendre. Parce que les dons se donnent, ça ne s'apprend pas. Amen. C'est Dieu qui donne les dons. Et vous avez compris qu'on ne peut pas choisir quel don on veut exercer. Comme on peut choisir quel ministère et quel talent on veut. On peut avoir plusieurs dons, mais tous les dons qu'on peut avoir sont des dons accordés gracieusement. C'est comme ça que vous ne pouvez pas dire, moi j'ai choisi de parler en langue. Si vous choisissez de parler en langue, vous allez mentir en parlant. Parce que le parler en langue qui vient de l'Esprit, c'est l'Esprit qui donne à qui il veut, au moment où il veut, où il veut, comme il veut. Alors si vous choisissez, vous risquez de choisir ce qui ne vous a pas été donné. Alors vous risquez d'embrasser ce qui ne vient pas du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'avec les dons de l'Esprit, il ne faut pas s'efforcer à les chercher. Il faut seulement se disposer devant Dieu, dans une attitude d'obéissance. Si vous êtes né de nouveau, attendre que Dieu vous donne, pour que vous puissiez l'exercer. Mais comme ce sont des choses rares, l'Esprit peut vous solliciter pour manifester un don à vous. Si vous doutez seulement et vous reculez, ça ne va pas se manifester. C'est pour cela qu'il faut être disposé à être conduit par le Saint-Esprit lorsque vous aspirez à voir les dons de l'Esprit se manifester dans votre vie. Alors, retournons dans notre passage. C'est quel passage? 2 Corinthiens? Merci beaucoup. 1 Corinthiens, chapitre combien? Chapitre 12, versets 1 à 11. Cette fois-ci, nous allons lire 8 à 11, parce que c'est là que sont décrits les dons qui font objet de notre analyse cet après-midi et ce soir. La parole de Dieu dit, en effet, à l'un est donné l'esprit, par l'esprit, une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, les dons de guérison, par le même esprit. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, les discernements des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il les veut. Alors, vous pouvez constater qu'en analysant, nous avons deux listes. Il y a la liste qui est dans les Saintes Écritures, dans ces passages, mais il y a la liste que nous avons constituée avec les groupements, avec la classification. Donc ce n'est pas l'ordre qui va valoir quelque chose ici, mais c'est que vous puissiez comprendre chaque don signifie quoi et il fonctionne comment. Peut-être en faisant cette analyse, vous pouvez nous aider, vous pouvez vous aider à voir s'il y a des signes qui apparaissent dans votre vie qui montrent que vous pouvez avoir ces dons-là. Amen. Amen. À condition que vous vous rassuriez que vous êtes déjà né de nouveau et que vous êtes consacré, vous êtes engagé à servir le Seigneur en toute obéissance. Les conditions, là, on va y revenir encore et encore chaque jour. Alors, parlons maintenant du don de la parole de sagesse. Alors, la sagesse ici n'est pas à confondre avec la sagesse qu'on peut acquérir par des voies humaines. Vous savez que nous devenons intelligents lorsque nous allons à l'école. Et en venant de l'école, on peut commencer à réfléchir autrement qu'on réfléchissait avant d'y aller. Et on va dire, cette personne est devenue sage à cause de l'école. Il y a aussi l'expérience qui rend sage. Avec l'expérience, vous pouvez avoir la connaissance de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Et quand vous déclinez cette connaissance, on va dire que c'est la sagesse. Et c'est à cause de cela qu'on dit souvent que les personnes âgées sont plus sages que les jeunes personnes parce que les jeunes personnes n'ont pas encore de l'expérience. Ils sont rendus sages à cause de l'expérience. Il y a d'autres qui cherchent la sagesse en lisant la parole de Dieu. Les Écritures les sondent, ils lisent une fois, deux fois la Bible. Vous savez, il y a des personnes qui sont chrétiennes depuis 10 ans et ils n'ont jamais lu la Bible une fois. N'est-ce pas? On ne va pas entrer dans les tests pour savoir que vous avez déjà lu la Bible combien de fois, mais ce n'est pas normal que vous puissiez être chrétien, converti, et vous n'avez pas lu la Bible, vous vous contentez de lire comme vous voulez, vous n'avez jamais lu la Bible du début à la fin. Si vous y êtes déjà allé, c'est une bonne chose, parce que ça donne la sagesse. Mais je veux dire que la sagesse comme don ne s'acquiert pas, ni par la lecture de la Bible, ni par les études faites à l'école, ni par les connaissances qui nous viennent de l'expérience vécue. Ça, ce sont des voies auxquelles nous recourons comme humains pour développer notre sagesse, nos connaissances, pour avoir un peu plus de sagesse. Mais ici, il n'y a rien de surnaturel dedans. Parce que tous les dons sont surnaturels. Amen. Amen. Tous les dons dont nous avons parlé ici, ce sont des interventions surnaturelles de Dieu par l'Esprit Saint dans la vie de quelqu'un qui est né de nouveau. Alors, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il peut lire la Bible et il va commencer à mener des discussions sagement parce qu'il a été inspiré par la Bible. Mais ici, ce n'est pas seulement l'inspiration, c'est une intervention surnaturelle, une manifestation surnaturel de Dieu dans la vie d'une personne parce qu'elle est née de nouveau. C'est en recevant ces dons qu'une personne devient capable de pénétrer les vérités secrètes des mystères cachés de Dieu et des choses spirituelles. Ceci rend la personne à découvrir facilement les top secrets de Dieu cachés que Dieu seul peut connaître. Alors, il décide de donner, de révéler ça à une personne humaine pour que la personne humaine le dise et qu'on puisse voir qu'il n'y a que Dieu qui a révélé ça. Alors, souvent ces choses sont exprimées dans des circonstances où il faut prendre des décisions difficiles en matière de gouvernance et de gestion. Si nous rentrons dans la Bible, nous allons constater que cela est revenu plusieurs fois avec des enfants de Dieu dévoués, bien connectés à Dieu et qui sont vraiment dévoués au service de Dieu, qui sont dévoués à la marche avec Dieu, dont la vie est consacrée au Seigneur. Nous voulons parler premièrement de Joseph. Vous voyez que Joseph, Il est en Égypte, il va à prison. Quand il va à prison, il est avec des amis, des collègues prisonniers qui font des songes, qui ne savent pas trouver la signification de ces songes. Ils sont troublés, mais quand ils arrivent chez Joseph, Joseph dit, il y a un Dieu dans les ciels qui révèle les top secrets. Alors, il donne la signification de ces songes-là. Et parmi les deux qui avaient eu des songes, il y avait quelqu'un qui avait un avenir heureux parce qu'il devait être réhabilité dans ses fonctions auprès du roi, Pharaon. Et Joseph lui dit, quand tu rentres dans la cour, souviens-toi de moi. Mais il est parti, il ne s'est même plus souvenu de Joseph. Jusqu'à ce que Pharaon puisse faire un songe qui l'a troublé, et il a appelé les magiciens, les sages, les je ne sais pas qui, pour qu'ils puissent lui dire de quoi il s'agit. Ils sont arrivés, ils n'ont pas pu. Et ce monsieur-là s'est fait, en prison, il y a quelqu'un qui vient de faire longtemps, mais il a en lui un esprit supérieur et il est capable de pénétrer les secrets dont a besoin les rois. Alors on appelle Joseph, quand il arrive là, il dit, roi, le songe que tu as fait, il n'y a personne qui peut le découvrir, parce que c'est seulement Dieu qui fait connaître ce qu'il veut dans ce songe-là. Alors il dit, il s'agit de quoi? Il dit, Dieu dit que les 7 vaches maigres, ce sont les 7 ans de la famine. Les 7 vaches, comment? Grasses, ce sont 7 années d'abondance. Et dans le rêve, les vaches grasses ont précédé les vaches maigres. Alors, il donne l'explication et le roi a posé la question à un certain moment donné. Et la Bible dit, « Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Quand l'Esprit de Dieu agit pour donner les dons de sagesse, chaque fois que les dons se manifestent, ceux qui voient, avec celui en qui ça se manifeste, tous admirent, tous sont surpris et tous concluent. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Si quelqu'un a une contrefaçon des dons de sagesse, lui, au lieu de s'étonner avec les autres, il va dire, vous voyez, moi j'ai un esprit, j'ai une intelligence, j'ai une sagesse supérieure. Il dit, j'ai une sagesse supérieure. Et ça, c'est une contrefaçon, et ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui est là, ça doit être un autre esprit qui est en train d'agir en lui. Parce que l'Esprit de Dieu vient pour glorifier Dieu. L'esprit malin vient pour glorifier l'homme, afin que cet homme puisse se perdre éternellement. C'est ça la vérité avec la sagesse, les dons de la sagesse. Amen. Amen. On pénètre les top secrets qui sont dans les rêves, dans les songes, on les révèle au nom de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit, et à ce moment-là, c'est Dieu qui est glorifié, et celui qui est dans l'admiration, c'est à la fois ceux qui écoutent et voient, et même celui en qui le don a été manifesté, il est dans l'admiration. Amen. Deuxième don, c'est le don de quoi? De la parole de connaissance. C'est aussi un don d'origine spirituelle et surnaturelle, qui est au-delà d'une simple intelligence extraordinaire. Je vous ai dit hier que nous pouvons rester naturels tout en faisant des choses extraordinaires. Ça ne fera pas que les choses extraordinaires deviennent des choses surnaturelles. Amen. Il y a des gens qui ont de l'intelligence extraordinaire, mais c'est encore naturel et humain. Ça peut être des talents. Mais ici, le don de connaissance, c'est une intelligence supérieure qui intervient de manière extraordinaire et surnaturelle dans la vie d'une personne. Et ça démarque ça de toutes les intelligences naturelles et ordinaires. La parole de connaissance est révélée par l'Esprit de Dieu à un croyant né de nouveau dans des circonstances hors du commun pour faire que l'homme réalise des choses qui sortent de l'ordinaire au sein de l'Église. Alors, les dons de la parole de connaissance supposent la révélation surnaturelle, soit d'une situation critique ou d'une tâche particulière à accomplir, qu'un humain ne peut pas connaître par ses facultés naturelles. Les dons de connaissance, c'est une information surnaturelle, précise et très correcte, qu'un croyant reçoit d'une situation relative à une chose qui se passe maintenant ou qui s'est passée dans le passé, une chose que Dieu seul peut connaître, mais qu'il décide de révéler à une personne spéciale, à un moment particulier, comme serviteur de Dieu. Alors, cette information, top secret, éblouit d'abord, ça peut venir de différentes manières. Une information comme celle-là peut venir par les songes. Alors que nous disons toujours qu'il faut faire attention aux songes. Je vais revenir sur ça. J'ai été béni le dimanche. Si vous avez été là, vous avez aussi peut-être aperçu ça avec moi. Le prédicateur a dit que nous n'avons pas à faire attention, beaucoup attention aux songes pour les idolâtrer et que nous ne devions pas avoir peur des songes. Et il a dit ça, il a expliqué comment. Il dit parce que les songes, pour la plupart des fois, les songes nous trompent. Vous avez suivi ça? Alors il a dit que ça nous trompe comment? Les songes, pour la plupart, à un plus grand pourcentage, lorsque les songes vous parlent du bien, souvent ça trompe. Vous rêvez, vous avez beaucoup d'argent. Quand vous réveillez, vous n'avez rien entre les mains. Le songe vous a trompé. Si alors quelqu'un vous manipule et dit, le songe, moi Dieu m'a révélé que ce songe-là, ça veut dire que vous allez devenir patron. Est-ce que tout le monde qui a rêvé de devenir patron est devenu patron? Non. Bien que les songes peuvent être utilisés par Dieu pour révéler une parole de connaissance, les songes sont souvent manipulés par le diable pour égarer les esprits faibles, les esprits qui n'ont pas le niveau de maturité de pouvoir discerner ce qui est en train de se passer dans leur vie. Alors il a conclu en disant, la plupart des fois, c'est lorsque les songes nous disent les choses qui ne sont pas très bonnes pour nous, que le pourcentage est élevé pour que ça puisse devenir vrai. Alors il a donné l'exemple en disant, bon, c'est facile pour quelqu'un de rêver en train d'uriner, et il s'aperçoit qu'il a uriné effectivement. Et j'ai vu les gens se regarder ces jours-là, parce que pour la plupart des fois, ça peut être vrai. Alors, ça devient plus vrai lorsque c'est mauvais, lorsque ça vous dit de mauvaises choses. Lorsque ça vous dit de bonnes choses, ce n'est pas bon, ça ne se réalise pas. Alors, les songes, Dieu les utilise aussi lorsqu'il fait passer un message. Mais ce ne sont pas tous les songes qui véhiculent la parole de connaissance. Amen. Parce que la Bible elle-même dit que c'est dans l'abondance de la pensée remplie dans l'esprit d'un homme que naissent les rêves et les songes. Si vous êtes préoccupé à trouver du travail parce que vous êtes chômeur, vous allez avoir plus de rêves dans ce domaine-là. C'est ça ce que la Bible dit. Donc, quand vous voulez expliquer vos rêves, ou quand vous voulez chercher quelqu'un qui va expliquer vos rêves, demandez-vous d'abord, ce sont des rêves dans quel domaine? Est-ce que ça ne coïncide pas avec vos préoccupations? Si ça coïncide avec vos préoccupations, vous devez savoir que ça relève tout simplement du domaine de la psychologie. Parce que c'est le travail, le chômage qui vous hante, vous allez rêver sur chômage et travail. Alors, faites attention lorsque vous avez un rêve et que vous allez chez d'autres personnes pour dire « expliquez-moi ce rêve ». Vous voulez demander qui vous explique le rêve. Est-ce que vous connaissez son profil spirituel d'abord? Parce qu'il va vous tromper. Ils sont nombreux ceux qui ont été trompés par le rêve. Quand vous venez vous donner, il glane dans votre songe des aspects qu'il va utiliser pour les retourner contre toi ou contre toi dans votre famille. Il dit, vous avez rêvé quoi? Est-ce que votre tante, vous ne l'avez pas rêvé? Si vous faites un faux pas, vous dites, oui, je l'ai vu dans le rêve. Il dit, ok, cette tante-là, est-ce que quand tu t'étais marié, tu l'avais satisfait? Tu as donné l'épargne, une chèvre, ainsi de suite. Si tu manques un élément, il dit, alors c'est de là que ça vient. Alors, il y a des gens qui viennent opposer les gens aux autres. Si la parole de connaissance
vient créer un conflit, ça ne vient pas de Dieu.
Amen.
Parce qu'en fait, ils sont nombreux qui disent qu'ils ont des dons spirituels, mais qui sont en train de créer des conflits dans des familles. Le mari entre en conflit avec son épouse parce qu'il y a une parole de connaissance qui est venue du prophète. Ça, c'est un faux prophète. Quelqu'un est à il entre en conflit avec les membres de sa famille parce qu'un prophète lui a donné une parole de connaissance en disant « Ce sont ceux-là qui vous font ceci, ce sont des sorciers, ainsi de suite. » Quand les conflits naissent, et les gens risquent de s'entretuer parce que quelqu'un qui s'appelle homme de Dieu, il a induit les esprits faibles en erreur, ça c'est déjà un signe que Dieu n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas venu et il n'a pas agi. Il n'y a rien de surnaturel venant de Dieu qui est intervenu là. Amen. Même s'il y a des miracles, les miracles viennent édifier les familles. Les miracles viennent édifier l'Église. Ça ne vient pas détruire les relations qui existent à l'Église et dans la famille. Amen. Amen. Alors ça, c'était les paroles de connaissance. La parole de connaissance a des exemples pleins dans la Bible. Vous allez voir, par exemple, le secret que Dieu, par son Saint-Esprit, a permis à Pierre de pénétrer dans l'affaire Ananias et Saphira. Ils ont fait des choses, personne n'était là. Ils étaient seulement deux. Cette fois-là, ils ont réussi à garder le secret. Même si on dit que le secret entre deux, c'est déjà quelque chose qui va s'éparpiller. Ils viennent à l'église étant déjà convenus sur ce qu'ils vont dire et ce qu'ils vont faire. Pierre n'était pas là. Mais lorsque Ananias vient, il dit c'est ça ce qui a été comme rendement de la vente. Pierre pose simplement la question. Est-ce que c'est réellement ça? Il dit oui. Je ne sais pas, il a posé la question combien de fois. Il dit, mais Ananias, qu'est-ce qui se passe que le diable soit entré dans ton cœur pour mentir au Saint-Esprit? Amen. Il a bien précisé, si vous lisez ce texte-là, c'est dans Actes 6, 4, 3 et 4. Il dit, vous avez menti. Alors, ne pensez pas que c'est à un homme que vous avez menti, mais vous avez menti à Dieu lui-même. Amen. Amen. Il n'était pas là, mais c'est une parole, une intervention surnaturelle, instantanée, pour un cas particulier, avec un problème spécifique. Dieu révèle surnaturellement à Pierre la vérité sur ce qui s'est passé en secret. Et il dit, je te vois en train de dire des mensonges. Mais ces mensonges-là, tu ne les dis pas à un homme. Tu les dis à Dieu parce que tu viens de mentir au Saint-Esprit. Comme s'il était en train de dire comment ils étaient en train de mendigasser avec sa femme. La femme arrive après l'enterrement de l'homme. Elle dit la même chose. Elle vient avec la même version. Alors Pierre dit, ça ne sert à rien de continuer à mentir parce que à cause de ces mensonges-là, voilà ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte, ils attendent de t'amener aussi pour aller t'enterrer. Elle est tombée, elle est morte. La même chose est arrivée avec Pierre lorsque Corneille a vu les gens aller appeler Pierre pour qu'il puisse venir leur parler avec ceux qui étaient avec lui dans la maison sur comment ils peuvent recevoir le salut. Alors, Corneille a envoyé deux personnes, ils sont arrivés à Jopé et ils sont venus à la maison de quelqu'un. J'ai oublié un peu son nom. Il dit, nous venons chercher Pierre. Et il dit, bon, il est là dans la chambre haute, il se repose. Il était en repos et Dieu se révèle à lui. Il dit, il y a des personnes qui viennent te chercher pour que tu puisses te rendre chez Corneille et je t'instruis. Ne refuse pas d'aller avec eux parce qu'il y a quelque chose que je veux faire par toi là où je t'envoie avec ces gens-là. Il est descendu déjà prêt à aller avec, il est parti et des miracles se sont réalisés là où il était parti. Alors c'est plein. Chaque fois que vous voyez quelqu'un avoir une révélation comme celle-là, c'est ça ce qu'on appelle la parole de connaissance. C'est ce qui est arrivé chez Anania, l'autre Anania de Actes des Apôtres chapitre 9. Vous les connaissez? C'est Anania qui a la révélation par parole de connaissance de ce qui vient de se passer dans la vie de Saul de Tarse, sur la voie de Damas, où il se rendait pour aller persécuter et faire emprisonner et tuer les chrétiens. L'Esprit lui donne la parole de connaissance. Il y a quelqu'un qui est en train de venir, c'est Paul de Tarse, ici, il vient d'arriver dans la maison de tel, je te demande d'y aller parce que c'est quelqu'un que je vais utiliser comme un outil dans le ministère de l'évangélisation. Il dit non, je n'y vais pas parce que celui-là, il est en train de tuer les gens, non? Il dit non, il est déjà affaibli, il n'est plus de ce côté-là, va et tu vas voir. Va lui dire ce qu'il va faire pour qu'il soit sauvé et qu'il fasse ce que je lui recommande dans le ministère. C'est un outil que je vais utiliser. C'est ça la parole de connaissance. Donc, passons au don de discernement des esprits. En fait, le don de discernement des esprits, ce n'est pas seulement cette capacité de découvrir les attitudes intérieures des personnes avec qui nous vivons ou qui nous côtoient, de manière à savoir leur état intérieur ou leur caractère, mais c'est un don qui rend capable de pénétrer dans le monde des esprits. En plus de découvrir ce qui se passe, c'est un don surnaturel, c'est une intervention surnaturelle de Dieu qui nous permet de pénétrer le monde des esprits, de découvrir ce qui se passe dans le monde des esprits, de découvrir la malignité des démons dans leur activité dans le monde des esprits et dans ce monde physique où nous sommes. Parce qu'en fait, il y a des maladies qui ne sont pas des maladies d'origine naturelle et qui entrent des personnes. La personne peut aller à l'hôpital, il ne va pas trouver la guérison. D'ailleurs, il arrive là, on dit, on ne voit rien. Il arrive ailleurs, on dit, même chez les spécialistes les plus attitrés, on ne voit rien. Alors que la personne est malade, prête à mourir. Il y a des maladies comme ça qui sont d'origine démoniaque. Et il n'y a que quelqu'un qui a le discernement des esprits qui va le savoir. Je veux dire ceci. Le discernement des esprits a beaucoup de niveaux. Il y a le niveau où nous pouvons être avec vous à l'église, vous dites que vous êtes chrétien, mais celui qui a le don de discernement, il dit, je ne peux pas le déclarer, mais même s'il dit qu'il est chrétien, moi je ne vois pas Christ en lui. Vous pouvez être avec quelqu'un et vous avez ces sentiments-là, vous voulez vous débarrasser de ces sentiments, ça refuse. Parce que c'est l'esprit qui vous oblige d'avoir ces sentiments-là vis-à-vis de celui qui se déclare chrétien, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Il n'y a que les jours où le diable va l'utiliser visiblement et ça va exploser pour que tout le monde se rende compte que celui-ci, il s'est caché parmi nous, mais il n'était pas des nôtres. Même Paul en a parlé. Amen. Ça, c'est l'esprit de discernement à ce niveau-là. Mais à un autre niveau, l'esprit de discernement nous permet de pénétrer les secrets de l'activité des démons dans la vie des humains. Je crois que c'est ce que Jésus a utilisé ce jour-là, là où il disait, quand il disait, Paul et Pierre, avec tous ceux qui sont là, ne soyez pas très contents parce que vous avez vu les démons vous obéir et se soumettre à vous. Soyez plutôt contents si vous êtes sûr que quoi? Votre nom est inscrit dans les livres de vie. Amen. Et il ajoute, je voyais les diables tomber du ciel comme un éclair pour vous faire du mal. Mais j'ai intercédé pour vous pour qu'ils n'aboutissent pas dans ce projet. Afin que lorsque vous serez affermi, Pierre, vous puissiez affermir aussi les autres. C'est une parole de connaissance. Amen. Amen. Et pour que l'Église soit édifiée, les dons, ces dons-là doivent intervenir. Si les dons n'interviennent pas alors que les gens sont là, sont nés de nouveau, alors ce sont des nés de nouveau qui peuvent être nés de nouveau. Est-ce que vous saisissez? Ce sont des nés, c'est une personne née de nouveau. Et c'est grave. Parce que Dieu ne nous a pas placés à l'église pour que nous puissions rester des nés. Vous connaissez les nés. Ericus, je ne sais pas dans d'autres langues c'est quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui est né, il ne grandit pas et il ne grandira plus. Il reste au même niveau. Spirituellement, ce n'est pas bien. Parce qu'en fait, il faut que nous puissions grandir. Et notre croissance dépend de notre dévouement pour le Seigneur. Ça dépend de notre degré de vie de piété, notre consacration à Dieu dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans les témoignages, dans la communion fraternelle. Alors, notre dévouement dans ces choses-là nous font avancer, nous font croître. Et quand nous croissons, Dieu juge qu'il est important qu'il puisse nous utiliser pour édifier, pour construire, pour faire croître l'Église, et il amène des dons, des interventions surnaturelles. Amen. Et je vous assure, lorsque les dons fonctionnent, c'est par exemple ces dons ici. Quand nous avons des malades, qui sont malades parce que le diable leur fait du mal. C'était plein. Vous voyez par exemple quelqu'un qui est venu avec son enfant chez Jésus. Il dit aux disciples, aux apôtres, délivrez mon enfant. Les apôtres ne le savent pas. Il arrive chez Jésus, il dit, aide-moi, délivre mon enfant. Jésus menace les démons, il part. Les disciples viennent et disent, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous on échoue et que toi tu réussisses? Jésus a dit quoi? Il a donné une réponse à deux volets. Le premier volet c'était quoi? C'est à cause de quoi? De quoi? De quoi? De votre incrédulité. Vous êtes à l'église avec Jésus. Ils n'étaient même pas à l'église, ils étaient avec Jésus. Nous sommes à l'église de Jésus, n'est-ce pas? Créé par Jésus. Jésus est dans l'église spirituellement. Mais ils étaient avec Jésus physiquement. En voyant des miracles, la Bible dit, ils ont vu les miracles et ils ont cru. N'est-ce pas? Mais les apôtres ont vu des miracles. Pourquoi ils sont encore incrédules alors que les autres sont en train de croire lorsqu'ils voient des miracles? Ça, c'est un secret que je ne sais pas expliquer. Oui, c'est à cause de votre incrédulité, votre petitesse de foi. Deuxième chose, il dit, mais à part ça, cette sorte de démon ne peut sortir que par la quoi? La prière et quoi? Et les jeûnes. Je crois que quand l'Église nous donne l'occasion de jeûner, elle nous fait du bien. Parce que vous n'avez pas eu la possibilité de jeûner seul. Il faut que l'Église vous apprenne à jeûner, parce que ça vous fait du bien. Il y a des choses qui, dans votre vie, ne peuvent jamais sortir s'il n'y a pas le jeûne et la prière. Et c'est ce que l'Église est en train de nous dire. Parce que vous avez accepté de jeûner et de prier, il y a des choses qui vont sortir dans votre vie. Elles vont sortir et il faut les croire. Je ne dis pas que j'ai une parole de connaissance là-dedans. C'est Amen. C'est Amen. Attendez, lorsque nous allons parler de la foi, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il faut qu'on y arrive là rapidement. Alors, c'est ça le discernement des esprits. Dieu veut que nous puissions être capables de discerner. Et là où il y a le discernement des esprits, il y a aussi immédiatement le don de chasser les esprits. Si le Seigneur vous montre que ce frère dit qu'il est chrétien alors que non, ça veut dire qu'il vous a montré déjà votre responsabilité sur ce frère-là. Dieu ne révèle rien pour rien. S'il vous révèle un problème, c'est-à-dire qu'il veut que vous puissiez être partie de la solution et ne pas partie du problème. Amen. Amen. Ah, votre Amen est trop lent. Je ne sais pas s'il faut que je demande encore un autre Amen plus tard. Laissez-moi vous parler de la foi, les dons de la foi. On peut y aller? Vous êtes prêts? La foi, c'est un don. Mais ce n'est pas à confondre avec la confiance naturelle que nous avons entre nous comme humains. Parce que chacun de nous a cette confiance-là. La confiance entre toi et l'autre. La confiance entre toi et ton épouse et ton mari et tes enfants. C'est cette confiance naturelle qui permet les relations paisibles dans la société. Si tu n'as pas confiance à l'autre, tu ne peux pas l'approcher. Et si tu ne l'approches pas, déjà les relations sociales ne marchent pas là-bas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Parce que si toi tu n'as pas confiance que quelqu'un s'est lavé avant de venir, il s'est lavé les mains, tu auras difficile à lui serrer la main. Parce que tu penses qu'il est passé quelque part où il peut t'amener des microbes et tu en deviens malade. Plus que ça. Vous savez que même si les sorciers ont découvert d'autres moyens de donner les poisons, mais avant c'était par la main, non? Si tu n'as pas confiance à quelqu'un, tu lui serres ta main pour qu'il te laisse quelques poussières de poison sur ta main. C'est la confiance qui soigne les relations sociales. Alors, la foi ici, ce n'est pas à prendre au niveau de cette confiance naturelle. C'est plus que ça. Laissez-moi vous parler des quatre catégories de foi. Et ces quatre catégories de foi sont nécessaires dans la vie d'une personne humaine pour que, d'un chrétien, d'un croyant, pour naître de nouveau, être capable d'avoir les dons de foi. Amen. Vous êtes prêts? La première catégorie de foi, c'est la foi qui amène au salut. C'est la foi par laquelle une personne accepte des choses qu'il ne voit pas. Mais il accepte comme si c'était une démonstration claire devant lui. On lui dit, pour être sauvé, il faut recevoir Jésus dans ton cœur. Il s'est dit, mon cœur, j'ai un cœur. La Bible me dit que ce cœur a une porte. Donc quand la Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe, donc c'est à la porte de mon cœur qu'il frappe. Je sais qu'il est là et il dit, je vais. Si quelqu'un ouvre la porte, si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il dit, moi je viens d'attendre. Il me reste de faire quoi? D'ouvrir la porte. J'ouvre la porte. Il n'y a pas un poignet. Il n'y a pas un poignet qu'il va tenir pour tirer la porte. Mais il dit, j'ouvre la porte de mon cœur. Il sait que c'est un acte de foi qu'il prend. C'est une initiative. C'est actif, ce n'est pas passif. J'ouvre la porte. Il ouvre. Et il dit, comme il a dit que si quelqu'un attend et ouvre, j'entrerai. Je viens d'ouvrir. Donc, il vient de faire quoi? Il vient d'entrer. Par la foi, il sait qu'il vient d'entrer. Et il dit, Seigneur, entre, lavons par le sang, pardonne-moi mes péchés et transforme ma vie. Je voudrais être à ton service tout le reste de ma vie. Amen. Il vient de là, il dit, Jésus est déjà entré dans mon cœur. Je ne suis plus comme j'étais parce que Jésus est déjà entré dans mon cœur. C'est ça la foi qui sauve. C'est ça la première catégorie de foi. Deuxième, la foi comme doctrine. Quand nous disons que nous faisons la confession de foi, nous faisons la confession des éléments, des doctrines qui font que nous puissions nous réclamer de l'Église chrétienne. La foi comme doctrine dans laquelle nous marchons pour exercer, pour rendre un culte acceptable à Dieu. C'est la foi comme doctrine. Référez-vous à notre confession de foi. Ça, c'est aussi la foi. Attention, attention. Nous avons besoin de cette foi-là. Pas seulement de la foi pour être sauvés. C'est-à-dire quoi? Je vais y revenir peut-être demain ou après-demain. Chaque élément de cette confession de foi a sa place dans notre vie de la marche avec Dieu. Au sein de l'Église. La foi, c'est cette marche avec Dieu au sein de l'Église qui s'appuie sur des grandes vérités de la foi, qu'on appelle doctrine. Alors, je vais y revenir sur quelques éléments de notre confession de foi, peut-être demain ou après-demain, avant de clôturer. Alors, troisième catégorie, c'est la foi comme confiance humble et simple en la parole de Dieu que nous lisons dans la Bible, mais qui se présente à nous comme logos. Il y a, dans la parole de Dieu, il y a les logos. Dans la parole de Dieu, il y a le rhéma. Alors, au troisième niveau, quand vous lisez la parole de Dieu et vous dites, ça c'est la vérité, ça c'est le logos. Logos comme parole de Dieu. Lorsque vous lisez encore, c'est ce que les chrétiens de Bérée avaient fait. Lorsque Paul et les autres sont venus le prêcher, la Bible dit, ils ont reçu la parole de Dieu, c'est dans Actes 17, ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Mais la Bible continue dans le verset suivant, au 17. Les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ça, c'est une sorte de foi. Pourquoi? Il explique. Parce que ceux-ci, ils reçurent la parole de Dieu avec empressement et examinaient combien de jours? Chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseigne était exact. Alors, il y a des moments où nous lisons la Bible. Hein? Vous êtes en train de faire la lecture, vous dites, ah, exact. C'est que vous croyez que ça c'est la vérité de Dieu et vous l'acceptez comme étant quelque chose qui peut constituer une règle de foi et de conduite dans votre marche dans la foi chrétienne.
Amen. Ça, c'est le logos.
Chaque fois que vous écoutez, vous dites, ok, exact.
Il y a des gens qui écoutent le logos en prédication.
Amen.
Ça, c'est le logos.
C'est ma.
Vous avez déjà entendu ça?
Amen. Quoi? Prêche encore.
Ça, il est béni par le logos. Celui qui n'a pas le logos ne recevra pas le réma.
Parce qu'il faut avoir l'habitude de lire la parole de Dieu et de découvrir ce qui vous bénit là-bas. Ce qui vous bénit dans la parole de Dieu, ce sont des logos. Mais, à part le logos, il y a la foi. Cette foi qui se manifeste comme un don spirituel et qui pour vous intervient de manière surnaturelle pour vous permettre d'être profondément convaincu, persuadé et assuré de la manière très étrange que vous venez d'identifier le rhéma de Dieu en votre endroit spécifique pour quelque chose de très particulier. Laissez-moi vous expliquer ça. Tout logos dans la Bible n'est pas votre rhéma. Toute vérité dans la Bible n'est pas spécifique pour votre situation. C'est quand ça devient spécifique pour votre situation particulière que ça devient votre rhéma. Et le rhéma de Lusenge n'est pas le rhéma de Priska, n'est pas le rhéma de Kiwiwi. Chacun a son rhéma dans sa situation particulière comme une personne spécifique. Amen. Amen. Laissez-moi vous parler d'un rhéma dans la Bible. Jésus laisse les disciples, il va à la montagne, il va prier et il dit traversez, prenez la barque, traversez, je vais vous rejoindre. Au milieu de la nuit, la tempête est en train de battre la barque. La Bible dit, les gens voient quelqu'un qui est en train de venir en marchant sur l'eau. Et tout le monde dit, c'est un fantôme. Jésus voit les disciples pris de panique dans la barque. Il dit, non, ne vous en faites pas, soyez calmes, c'est moi Jésus. Il dit, alors c'est bien. Peut-être tout le monde a cru, c'est Jésus. Mais Pierre dit, même un fantôme peut nous dire que c'est Jésus. Alors il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que Jésus puisse aussi marcher sur l'eau. Et Jésus dit, viens, marche sur l'eau. Ça, c'était un rhéma de Pierre. Ce n'était pas un rhéma pour Jacques, ni pour Matthieu, ni pour... Celui qui a livré Jésus, c'est qui? Judas Iscariote. Ni pour Judas Iscariote. Attention. Alors, si Judas Iscariote pouvait dire, comme on dit à Pierre de marcher sur l'eau, moi aussi je vais marcher. Il pouvait se noyer, peut-être qu'il raterait la chance de livrer Jésus. Il ne pouvait pas parce que ce n'est pas la parole spécifique à un moment spécifique pour un problème particulier qui le concernait lui en tant qu'une personne spéciale. Alors le rhéma, c'est une parole spécifique pour vous spécialement, dans une circonstance particulière, pour un objectif aussi spécifique, pour vous et non pas pour quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Alors il faut chercher le rhéma. Et le rhéma, c'est ça la foi. La foi qui déplace les montagnes. La foi, parce que vous voyez, Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, et que vous demandez quelque chose sans avoir aucun doute en vous, en vous-même, même une montagne peut se déplacer. Combien de fois nous avons prié avec foi et nous doutons encore? Est-ce que vous me comprenez? Dieu nous tolère dans nos situations. Même lorsque ça ne marche pas, il nous tolère. Le rhéma, c'est une parole qui est dans la parole, qui vient de la bouche de Dieu dans la Bible, mais c'est une vérité qui peut vous bénir, mais ça peut ne pas être votre vérité spécifique et particulière. Ça peut ne pas être votre vérité spécifique pour vous en tant que personne spéciale dans une situation particulière. Est-ce que vous me saisissez? Laissez-moi vous donner un exemple. En Indonésie, je crois, Yeka peut se souvenir, il y a un livre qui est intitulé « Comme un souffle violent ». Si vous lisez ce livre, vous allez comprendre qu'en Indonésie, il y a eu le réveil. Lorsque le réveil est venu, ce sont des serviteurs de Dieu qui ont prié, le réveil est venu, les gens ont commencé à se convertir. Vous savez, nous pouvons prier ici et les gens vont commencer à se convertir dans ces quartiers sans que nous puissions aller les voir. Eux-mêmes vont commencer à venir ici ensemble. Parce que l'Esprit de Dieu est en train d'agir au-delà. Ce sont des miracles, ce sont des dons. Alors, l'Esprit de Dieu a commencé à convaincre les gens. Les gens, ils ont organisé une grande campagne. C'est pas comme ici où on organise, les gens ne viennent pas, ils viennent seulement à 60. Les gens se sont mobilisés, ils sont venus parce que les gens ont prié. Peut-être il faut nous reprocher. Est-ce que nous avons prié pour que les gens soient, se sentent attirés par l'Esprit? Bon, je ne sais pas. On ne va pas commencer à s'en recondamner ici. Alors, les gens sont venus. Alors, les jours de la campagne, ils pouvaient même prier. La pluie cesse de pleuvoir. Mais ces jours-là, il a beaucoup plu, de telle manière que lorsqu'ils ont traversé une rivière, et la rivière ne pouvait pas créer des problèmes. Mais en revenant, comme il avait plu, les lits de la rivière, comment on dit? Ça a débordé. Alors, trois garçons sont arrivés là, des chrétiens vraiment, sauvés. Yeka, tu te souviens de l'histoire? Ils sont arrivés là, pardon? Ils revenaient. Ah, il dit bon, je peux me tromper. Parce que vous savez, nous pouvons lire ensemble et nous perdons certains éléments de détail. Alors, ils avaient dit, comme nous sommes sauvés, la condition était bonne. Nous voulons traverser. Peut-être ils allaient. Nous voulons traverser pour aller à l'évangélisation. Je ne sais pas. Il faut que je relise encore. Si tu as les livres, il faut qu'on les relise ensemble. Alors ils disent, Seigneur, comme Pierre avait marché sur l'eau, nous aussi aujourd'hui, nous allons marcher sur l'eau. Alors, peut-être ils ont compté 1, 2, 3, et nous allons commencer ensemble. 1, 2, 3, et ils ont 1, 2, 3, alors 2, 3, ils ont, et ils sont montés, ils ont sauté et ils se sont noyés. La rivière n'a pas pardonné ces gens. La rivière les a emportés. Les trois chrétiens sont morts. Pourquoi? Parce que le rhéma de Pierre n'est pas le rhéma des Indonésiens. Si Dieu a dit, si Jésus a dit, viens et marche sur l'eau, c'était Pierre. Il n'a pas dit que les Indonésiens, les trois là, ils vont marcher. Chacun a son rhéma et son rhéma vient dans une circonstance particulière. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un rhéma basé sur la parole de Dieu, mais qui n'est pas exactement ce qui est dans la parole de Dieu. Vous voyez ça? C'est ça la foi. La foi comme don. Et cette foi ici, c'est pas donné à tous les chrétiens. C'est un miracle surnaturel qui intervient parce qu'il y a un besoin de ça à un moment donné pour une cause particulière. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre que même si nous ne sommes pas encore là, mais nous sommes éligibles pour en arriver là. Vous êtes éligibles pour ça. Parlons d'un autre don, c'est le don de guérison. Le don de guérison, c'est un don qui n'est pas à confondre avec les guérisons que nous trouvons à l'hôpital ou chez les guérisseurs. Suivez-moi bien. Nous pouvons aller chez les spécialistes et nous guérissons. Dieu répond à nos prières en guérissant nos malades. Mais ça se passe de manière naturelle. Peut-être que Dieu va utiliser. C'est pour cela qu'il y a quelqu'un qui avait prié. Seigneur, même les médicaments que les malades prennent, bénis ça pour que ça puisse les guérir. Il y a une personne qui a commencé à prier ça. Et nous tous, nous avons déjà copié ça, copié et collé, nous disons, Mungu bariki dawa, mtu apone. Ça, c'est une guérison naturel. Dieu peut passer par là, ce n'est pas exclu. Mais ce n'est pas de cette guérison-là que la parole parle ici. C'est une guérison miracle. Vous pouvez aller chez le guérisseur. Nous ne savons pas, il utilise quelle puissance pour te guérir. Mais vous y allez, vous revenez guéri. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Ici, nous parlons d'une intervention divine, surnaturelle, instantanée, opérante, pour changer le cours de l'histoire. Pour que même les maladies déclarées scientifiquement incurables puissent commencer à guérir, parce que Dieu, qui a créé tout, a le contrôle de tout et il peut changer tout. Amen. Alors c'est ce qui est arrivé lorsque vous avez vu dans l'évangile, dans les actes des apôtres, Pierre et Jean qui arrivent devant les paralytiques, ils disent, l'argent, nous n'en avons pas, parce que c'est ce que tu demandes. Si on avait de l'or, peut-être on pouvait t'aider avec ça. Mais ce que nous avons, nous te les donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et les paralytiques s'élèvent, ils sautent et ils dansent parce qu'il a recouvré la santé. Alors, les dons de guérison, ça intervient dans le domaine de la maladie. Pour que la personne malade, dans quelque aspect que ce soit, il puisse recouvrer la santé. Ça peut être une santé mentale, elle est recouvrée. Ça peut être une santé physique, elle est recouvrée. Ça peut être une santé morale. Santé? Ah, spirituelle, c'est surnaturel. Parce que le début de la santé spirituelle, c'est le salut. Or, le salut, c'est un miracle surnaturel qui intervient dans la vie de quelqu'un de naturel. Amen. Amen. Alors, c'est ça ce qui est de la guérison miracle, les dons de guérison. Dons de miracle, peut-être nous allons nous arrêter là, parce que les autres dons comme la prophétie, les autres dons comme le parler en langue, l'interprétation des langues, ça demande beaucoup d'explications, parce que je ne vais pas en parler un peu de temps pour vous laisser sur votre soif. Si vous avez été scandalisé, attendez demain. Parce que demain, nous allons dire ce qui est langue et ce qui n'est pas langue, et où est-ce que, quand est-ce que la langue est langue selon Dieu, et quand est-ce que la langue n'est pas langue selon Dieu. Alors donc, ça ne peut pas convenir au temps qui nous reste, parce que nous venons même de dépasser le temps. Mais laissez-moi terminer avec le miracle, le don des miracles. La Bible nous parle du don des miracles comme étant pas une réalisation extraordinaire, comme nous le voyons avec la technologie aujourd'hui. La technologie a accompli des réalisations extraordinaires qu'on appelle miracles. N'est-ce pas? Mais la Bible ne les appelle pas des miracles parce que c'est naturel. Amen. Les miracles, c'est une manifestation surnaturelle de la puissance puissante de Dieu, qui change définitivement ou suspend momentanément les cours de l'histoire ou alors la loi de la nature, les lois de la nature. C'est ça le miracle. Alors, ce qui nous étonne, c'est lorsque vous rentrez dans les Grecs, le terme grec qui est utilisé dans le verset qui dit « Aux autres, ils donnent le pouvoir d'opérer, les dons d'opérer des miracles. » Miracle là, le concept qui est traduit par miracle, c'est dunamis. Dunamis. Répétez dunamis. Est-ce que vous avez un terme en français qui ressemble à ça? Quoi? Dynamique. Trouvez un autre. Trouvez un autre. Ce qui vous passe par l'esprit, la première idée, c'est ça la vérité? Dynamo. Quoi encore? Dynamite. Dynamite, hein? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a eu dynamite là-bas? Qui a eu dynamite? Vous tous, vous n'aviez pas ça. C'est moi seul qui avais ça. Vous avez honte de dire ça. Dynamite. Une dynamite, c'est un explosif de grande puissance. Et la puissance de cet explosif est presque irrésistible. Et c'est ça qu'on utilise pour exploser les gros rochers, les grosses pierres. Qu'on ne peut pas soulever, qu'on ne peut pas déplacer, on amène la dynamite, ça fait éclater, ça déplace et ça fait exploser. Vous comprenez? Et c'est ça le terme qui est utilisé pour parler des miracles. C'est une puissance qui apparaît comme l'explosion d'un explosif puissant. Alors, c'est ce qui est arrivé, même si avec notre petitesse d'esprit, nous ne pouvons pas constater la grandeur de cette puissance qui agit dans les miracles. C'est ça le concept qui exprime ce qu'on doit appeler miracle. Donc, quand vous dites miracle, pensez à la dynamite. Pensez à ce que Dieu intervient de manière surnaturelle pour faire exploser une dynamite puissante spirituelle pour changer les cours de l'histoire à partir de ce moment-là. Les lois de la nature s'arrêtent. Ça peut s'arrêter définitivement ou momentanément. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Les enfants d'Israël viennent d'Égypte et ils viennent devant la mer Rouge. Pharaon arrive et il commence à crier, « Tonakoufa, nous mourons ici, nous mourons ici, nous mourons ici. » Moïse dit au Seigneur, « Mais qu'est-ce que nous faisons ?» Il dit, « Attendez, la dynamite, le miracle va s'accomplir. » Il dit, « Élève seulement ton bâton sur la mer. Ça va s'effondrer et les enfants d'Israël vont traverser à pied sec, en sec. Et il dit alors, quand ils auront traversé, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Il va entrer là où ils sont passés. Quand ils auront fini de traverser, tu vas encore lever le bâton et je vais libérer l'eau. Ça va engloutir Pharaon et ses champs et son armée. Tous, leur fin, c'est aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, Moïse fait ça et la dynamite agit. Les miracles s'accomplissent. Les miracles commencent par un vent violent qui souffle sur l'eau et l'eau se sépare. Les vents arrivent même jusqu'à sécher les lits de la mer de manière à ce que peut-être on peut voir la poussière s'élever là où les enfants d'Israël passent. Vous ne voyez pas la dynamite? Vous ne voyez pas la dynamite? Alors ce n'est pas une dynamite que nous connaissons ici, c'est la dynamite divine, surnaturelle. Ça veut agir comment? Vous voyez, on utilise même la dynamite pour pêcher, pour tuer les poissons. On l'allume là-bas, ça vient, ça explose, tous les poissons commencent à flotter sur l'eau et on les ramasse, on va manger. Ce n'est pas ça. La dynamite de Dieu, quand ça entre dans la mer, ça fait sécher la mer et la poussière, olututulumouk. La poussière, qu'est-ce qu'on peut dire en français? La poussière fait quoi? La poussière s'évapore, la poussière s'élève. La poussière s'élève, comme si c'était un véhicule qui passait, là où il n'y a pas d'asphalte. Alors donc, c'est ça la dynamite de Dieu. Ça se fait lorsque Dieu agit. De manière à ce que ça ne peut pas être expliqué par les... La science est trop petite pour expliquer la puissance de Dieu. C'est comme ça que Paul disait, je ne vous enseigne pas avec l'intelligence des hommes, mais ma prédication consiste en une puissance de Dieu. Pour les saluts de ceux-là qui vont accepter la parole qui leur est transmise. Alors c'est ça les miracles. Et si vous êtes né de nouveau et que vous êtes dévoué, tous ces dons-là sont à votre disposition. Parce qu'il n'y a que Dieu. Malheureusement, Dieu, l'Esprit vous sollicite et dit, bah, puisque je peux te donner ces dons. Ah, Patasemanim. Parlez la langue. Un jour, Ramazani a parlé la langue ici et tout le monde a commencé à dire, mais comment? Ramazani a parlé la langue. Comment il peut parler la langue dans la SEDEC? Est-ce que c'est vrai que tu as fait parler la langue? On a peur, mais désormais, le Seigneur nous demande de quitter l'ignorance. N'ayez pas peur d'être utilisé par le Seigneur s'il veut vous donner son don. C'est lui qui donne, vous n'avez pas à choisir. S'il vous donne, recevez. Vous êtes prêt à recevoir? Vous êtes prêt à recevoir? C'est pas moi qui donne, hein? C'est l'Esprit qui donne. Il va se promener parmi nous et il va donner à quiconque est prêt à recevoir. Que le Seigneur bénisse sa parole.